bien Étienne, ça démarre par la présentation d'un concept.
Par exemple, celui de diffusion. Bon. Ensuite, ça continue par un exercice, comme nous l'avons fait, dans lequel les élèves essayent de mettre en œuvre les équations de diffusion. C'est dans la terminaison, dans la fin, que la différence est absolument peut être considérable. C'est que pour un scientifique, la fin, c'est voilà la solution. C'est la résolution parfaite, exacte du truc. Et quand on compare ça aux ateliers ou à ce qui s'est passé hier, par exemple, sur le cas de la bière, c'était très flagrant. C'était pas très clair le concept et c'était pas très clair la théorie. S'il y avait eu un scientifique ici, il serait parti en courant en disant n'importe quoi. Alors là où ça devient vraiment extrêmement embêtant, c'est que quand on a beaucoup vécu, comme c'est le cas de nous dans l'entreprise et tout ça, c'est un peu comme pour apprendre à nager, quoi. Moi, j'étais maître nageur quand j'étais petit. Il faut arrêter de se prendre la tête. Ce qui compte, c'est qu'il nage, le mec, quoi. Donc, ça va, quoi. La théorie, machin, pourvu qu'il nage. Le problème, c'est que... Ben oui, mais pour un scientifique, c'est largement insuffisant. Parce que pour un scientifique, apprendre à nager, c'est aussi... Enfin, si je fais une analogie qui est un peu merdique, hein, mais ça serait... Oui, mais il n'a pas compris comment ça se fait qu'il nage. Et là, alors, dans ce cas-là, tu lui dis « Oui, mais alors, c'est grave ?» Il dit « Ouais, non, t'as raison, faut même pas exagérer. » Bon, donc ça va. Il dit « Ouais, dans ce cas-là, ça va. » Mais comme on fait jamais ces régulations, comme on discute jamais de ça, ce qui nous paraît suffisant, pour eux, ça, c'est vraiment merdique. Alors, le problème, c'est que les profs sont comme ça, mais les élèves sont comme ça aussi. Parce qu'ils ont été habitués.
Ils ont un raisonnement.
Voilà, et on dit, ça manque de rigueur et tout ça. Oui. Donc moi, j'en tire deux enseignements. C'est que je pense que quand on enseigne dans une école d'ingénieurs, si on n'a pas la théorie qui va avec, là, on court un grand risque. Mais j'irai plus loin. Je me dis, si on veut vraiment être dans une pédagogie innovante et qu'on n'a pas de théorie, on fait, à mon avis, n'importe quoi. On peut, a priori, faire n'importe quoi. Alors, je ne veux pas dire que sans la théorie, il n'y a que de la merde. Parce qu'il y a des gens, il y a des génies, et voilà, on peut être génial. Donc il faut aussi toujours être... Mais je pense que le fait d'avoir systématiquement le réflexe de dire « Mais c'est quoi la théorie ?» D'abord, c'est quoi les phénomènes sur lesquels je travaille ? Tu as par exemple le KGGB, l'atelier 2, où on essaye d'éveiller les élèves à... Qu'est-ce que c'est que poser la différence entre problème et solution, quoi. Hein? Et puis après, la nécessité à structurer et travailler par hypothèse. Si on n'est pas très clair sur notre théorie, les élèves considèrent que ce qu'on fait, c'est une classe de gestion. Et du coup, ils nous accusent de « Mais ouais, mais ça, pourquoi on ne fait pas en gestion ?» Bon, ça, c'est au début. Mais à la fin, si on n'est pas très clair sur, par exemple, hier... Étienne présente le modèle. Génial. Bon, on travaille dessus. Génial. C'est comme dans les PC de maths. C'est à la fin que c'est pas pareil. C'est qu'il n'y a pas la correction. Donc si on ne va pas jusqu'à se faire chier, mais à mort, jusqu'à ce qu'on ait écrit un truc et on signe notre sang, pour un scientifique, c'est merdique. C'est-à-dire qu'on a arrêté avant la fin. Donc... Il n'y a pas eu, parce que eux, on leur tire dessus en permanence. Leur job, c'est faire avancer la connaissance, une connaissance rigoureuse. Donc eux, ils n'ont terminé, enfin, c'est hyper chiant comme job, hein. Il faut aller jusqu'au dernier millimètre de démonstration.
Bonjour.
Donc tu t'imagines, si tu quittes un échange, si tu quittes un échange avec un étudiant sans être allé au bout de crack, c'est merdique pour eux. Mais alors c'est quoi, qu'est-ce que machin et tout. L'autre truc aussi qui va les gêner.
Comment ça va avec le modèle, etc. Quoi, pour l'étape de la fin.
Tu vois, par exemple, à la fin, là, il y aurait eu un scientifique ici. Quand on a dit quel était l'objectif, c'était une super question. Moi, j'aurais aimé qu'on le truc, oh, on tape dessus. C'était dur, mais c'est souvent le cas. On a du putain, qu'est-ce qu'on a du mal à formuler les objectifs, tu vois. Là, on s'est arrêté un peu vite sur l'impression. Il y aurait un scientifique, et là, il dit, mais putain, il se contente de n'importe quoi, quoi. Mais c'est pas fini, votre truc. Et là, ils ont raison de nous accuser. Parce que si on prend le truc, non, c'est pas des non, ils font pas que chier. Ils ont le tort, de temps en temps, de ne pas vouloir sortir de leur truc. Mais n'empêche que cette exigence de rigueur, je trouve qu'elle est bonne. Parce que ça nous pousse, tu veux, à aller au bout d'un truc. Et pas de s'arrêter au milieu, quoi.
Et du coup, la question qui me vient, c'est quand il n'y a pas une solution à la fin, comment est-ce que tu pourrais conclure d'une manière qui est satisfaisante pour
un scientifique ? Mais quand tu as plein de solutions, la rigueur dans la complexité, c'est la rigueur de ton énoncé, sachant que c'est un parmi d'autres. Mais ce qui est pénalisant, à mon avis, ce qui est répréhensible, c'est de ne pas arriver à une formulation dont tout le monde le dira, elle est rigoureuse. Tu veux, c'est la question, tu peux arriver à plein de formulations différentes. L'important, c'est que tu arrives à une formulation satisfaisante. Et souvent, en fait, dans des formations professionnelles, on s'arrête sur un peu du boulga, quoi. Et je pense que là, si on s'arrête trop tôt et qu'on ne va pas jusqu'à un objet, on a créé l'objet sur lequel on voulait former, si on ne va pas jusqu'à créer l'objet, alors, pour un scientifique, c'est pas du tout.
Et du coup, moi, j'ai du mal à voir quel peut être cet objet dans un contexte de complexité.
Ah bah tiens, là, si on prend l'exemple très concret, de hier, les objectifs. Donc, quand Étienne a dit, moi, la phrase que j'aime bien, c'est « à la fin de cette formation, je serai capable de... » Putain, on n'a pas fini. Donc, finir, ça aurait été, c'est-à-dire, bon, allez, on va se donner le temps de finir. Pour qu'au moins on ait créé un objet qui matérialise notre concept. Ok, on y arrive. Alors là, qu'est-ce qui se passe après? On l'a créé, après tout le monde se recule, on prend les bazookas et on tire. Et à la fin, on se dit, bon, est-ce que ça tient, ça tient pas, pourquoi ça tient pas, etc. Là, on fait du travail qui satisfait les scientifiques. Et à mon avis, c'est un bon travail.
Et on fait du travail qui satisfait les scientifiques si... De notre côté, si on a mis en place un processus suffisamment robuste qui permet d'embrasser la réalité et puis de conduire à un résultat satisfaisant.
Et là, je voulais vous dire le deuxième truc qui, à mon avis, peut nous plomber complet avec les scientifiques, c'est que un scientifique va attendre que... Mais qui est gardien de la rigueur? Qui est le gardien de la rigueur? Parce que enseigner pour eux... C'est un peu comme les gardiens du temple, hein, il y a quelques milliers d'années, tu vois. Enseigner, c'est assumer une responsabilité. Et la responsabilité, c'est ne pas véhiculer n'importe quoi. Ce qui fait vraiment... Moi, le premier... Vous voyez, on a écrit un polycopié dans les ateliers. Vous savez, le premier réflexe qu'ont eu les scientifiques...
Lire,
à votre avis, c'est quoi? Comment ils s'emparent, comment ils se saisissent par de ce document? Par la biblio. Et alors ça, pas loupé, il y a une biblio de merde, et voilà. Le seul truc qu'ils ont retiré, c'est il y a un élément de bibliographie qui est suspect parce que c'est associé à une secte, je ne sais pas quoi. Dimitri s'est monté, Dimitri a eu tout un problème.
On a montré les 8 intelligences et qu'ils ont trop privilégié une clé d'entrée aussi. Hein.
Ouais, n'empêche que, voilà, c'est comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que dans la manière dont tu conduis...
Je vais dire une chose qui me dérange dans tout ce que j'entends, en fait, c'est vous faites juste dans les choses, et j'ai l'impression que peut-être le bateau était trop tiré d'un côté, mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on va trop tirer d'un autre.
Tu vois. Mais Jean-Denis, il n'y a pas de temps, moi, ce que je dis...
C'est leur manière de voir. Oui, mais la vérité, elle est toujours au milieu.
Oui,
c'est pas la raison d'un côté, l'autre.
Je suis d'accord. Mais sauf qu'on est invité ici. On est locataire, on n'est pas propriétaire. Cette école, c'est une école d'ingénieurs.
Donc ouais, on est aussi gardien d'une forme de rigueur qui n'est pas la même que la leur.
Alors, mon point, c'est est-ce qu'on est explicite, est-ce que l'animateur de la formation, il est explicitement gardien de la rigueur et comment il l'est? C'est ça mon point. Moi, je suis pas en train de tirer le truc. Non. Ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'attitude des scientifiques. Et ce que j'ai, la révélation de hier, c'est qu'on peut apprendre beaucoup. Ils peuvent nous apporter beaucoup si on accepte la discipline d'aller au bout de certaines choses, comme je l'ai dit. Tu vois. C'est juste ça que je dis. Hein. Mais le fait
tu parles de faire du
oui.
Hein? Tu parles de faire du et.
Oui. C'est ça.
Oui.
C'est
pas ah bah, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que tu vois, l'autre truc qu'il va falloir qu'ils acceptent aussi, c'est la nature des problèmes sur lesquels on veut entraîner les élèves. On ne veut pas entraîner les élèves seulement à faire du travail d'équipe sur un problème de mécaflux. Hein. Du coup, il va falloir aussi qu'eux, ils acceptent de sortir des zones de confort. Tu vois? Mais je trouve... Enfin, voilà, je voulais vous livrer ça parce que je pensais que ces deux aspects, ils sont très...
Moi, j'ai juste une remarque. Je comprends tout à fait la dimension de... globalement, on est locataire, on doit comprendre leur cadre de référence et rentrer dans leur cadre de référence avec tout ce qu'il y a comme schéma. Ce qu'on souhaite aussi, il me semble, dans les ADPL, c'est de leur montrer qu'il y a d'autres cadres de référence, d'autres modes de fonctionnement. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut leur montrer de manière rigoureuse.
Voilà.
Et Mais en vrai, il faut qu'on les amène à la dire, oui,
je vais te faire une analogie, c'est les enfants et les parents. Si papa et maman ont un discours clivé par rapport aux enfants, ça leur fait pas beaucoup de bien aux enfants. Parce qu'ils vont avoir papa, maman, et tu vois. Et donc du coup, ici, il faut quand même voir qu'on n'arrive pas, on en arrive avec un handicap considérable. Et du coup, l'intérêt, à mon avis, l'intérêt, c'est la grande erreur que j'ai commise, moi, c'est de croire que le corps enseignant m'acceptait vraiment. En fait, ça n'a pas été vraiment ça. J'ai pris la place contre, et il y a un gars qui m'a dit, le patron du département physique, m'a dit, en 10 ans, tu nous as pris un semestre. Donc, ils ont vécu ça comme un rapport de force entre la science et la non-science. Tu vois? Et donc, du coup, quand tu arrives, je pense que ça, c'est des éléments d'histoire que vous n'avez pas, mais moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Et du coup, les enseignants scientifiques n'ont vu que la diminution de leurs heures au profit de quelque chose. Quand ils le regardent de loin, tu vois, et c'est pour ça, on a intérêt, et c'est à nous à faire l'effort, parce que eux, peut-être, ils auront beaucoup de mal à le faire.
Il y a quelque chose.
Vois, voilà, c'est juste ça.
Ça me brûle les lèvres, là, que je voudrais dire, c'est. J'accroche très fort sur le mot de rigueur. J'y crois énormément. Mais je crois que de notre côté, la rigueur, elle est dans le processus de création de savoir. Le processus de création de savoir, là, on peut être hyper rigoureux. Et j'invite à être beaucoup plus rigoureux qu'on ne l'est. Quand on commence à connaître un petit peu d'outils, comme le World Café, le co-développement que tu citais hier, etc., il faut savoir les utiliser en ayant cette réflexion systémique qu'on a dit hier, c'est-à-dire le contexte avant, après, les gens, les acteurs, etc. Est-ce que tout ça est soutenable, etc. Voilà, j'entre dans une...
Oui.
Pour dire qu'il y a de la complexité derrière, il y a de la pluridisciplinarité tout de suite. Mais on peut être rigoureux sur le processus de création de savoir. Chez les scientifiques, je pense qu'on sera... quand on parle de rigueur, c'est une autre rigueur, c'est la rigueur de la connaissance. De la connaissance établie. Tu vois, entre la connaissance établie et... moi, je prends le challenge, j'achète l'idée de forcer la rigueur sur la création de savoir ensemble. Mais je ne sais pas être rigoureux sur une situation de résultat quand on est dans de la pluridisciplinarité de comportement, de gestion, de dynamique collective, etc.
Mais
ça est clair un peu ?
Oui, mais en utilisant ce que Serge vient de dire, on peut très bien chercher à caractériser l'objet auquel on veut arriver à la fin.
Voilà. Oui.
Mais ça dépend du niveau. C'est pas caractériser l'objet en termes de contenu, mais quelle forme, à quoi je voudrais arriver. Je voudrais arriver à ce que les apprenants aient ça.
Et là, le rapport avec les scientifiques, il est simple. Là. C'est quel est le phénomène quelle intelligence j'ai, c'est quoi le phénomène en question, et quelle intelligence j'ai de ce phénomène.
Oui.
Tu vois. Parce que sinon, si tu n'as pas d'intelligence du phénomène, tu es un apprenti sorcier, et ça, il ne supporte pas. Il y a quelque chose de... Mais franchement, c'est terrible. Hein. La réaction que peuvent avoir certains profs... Moi, j'ai entendu dire une sommité de physique, ici, quand on a créé les projets en première année, il m'a dit, mais comment veux-tu que moi, je puisse encadrer, j'encadre un projet dont c'est pas ma spécialité. J'ai dit, mais Jean, putain, tu vas rentrer à l'Académie des sciences, mais arrête tes conneries, quoi. Et ils sortent de top, les mecs, attends, mais t'es con, quoi. Mais t'es... Et alors, il se sentait pas légitime, tu vois, pour aller dans un domaine qui n'était pas le sien. Donc c'est super, c'est très, très important pour eux. Donc je pense que tu as raison, c'est vachement important qu'on nomme les phénomènes.
Ouais,
et tu vois, par exemple, moi, il y a un truc que j'ai fait, et je m'en félicite, c'est le phénomène que j'ai nommé très vite à l'école, c'est de dire, on n'est pas là pour enseigner, on est là pour aider les élèves à découvrir que les représentations qui se font d'un certain nombre de choses sont très décalées par rapport à la réalité. Par exemple, la notion de problème, ils croient qu'un énoncé est un problème, tu vois. Et plus ils sont forts en France, et plus ils croient.
Changer
les représentations. Donc voilà, ça. Et alors là, dès que je dis ça, pour un scientifique, waouh ! Alors ça, c'est sympa. Parce que ils se disent, putain, mais ouais, ils croient qu'ils ont compris, mais ils n'ont rien compris. Alors on discute comme des fous. Si tu leur parles d'hypothèse, alors c'est pareil. Là, tu leur dis, bon, ben, le phénomène, c'est donc d'éviter de se perdre en travaillant par hypothèse. Ah, ça, ça leur parle, puisque tout le premier travail d'un chercheur, c'est de trouver la bonne hypothèse. Donc, ouais. Et ce qui est... Moi, je pense, hein, le problème, c'est que quand on a trop travaillé en entreprise, ben, on n'a pas forcément ce réflexe d'aller... on sait, et puis voilà, quoi. Le fait de nommer précisément, c'est pas forcément un réflexe. Moi, je l'ai vu, hein, le passage... J'ai formé des gens pendant 15 ans chez Atécornet, mais comme malade, quoi. Ils me passaient tous dans les mains. Quand je suis arrivé ici, le même truc avec des élèves, j'ai pas pu le faire de la même manière. Il a fallu que j'aille beaucoup plus profond, que je sois plus explicite. La notion d'hypothèse, elle était allusive, ça marchait pas. Bon, voilà ce que...
J'ai en tête trois scientifiques qui sont des ponts avec nous. Je pense à Joël de René, Michel Serre, Jean-Claude Ameisen, qui a un succès phénoménal aujourd'hui et que j'admire énormément. Vous pouvez l'entendre... Vous pouvez l'entendre le samedi à 11h sur France Inter. C'est extraordinaire. Donc, lui, c'est l'intelligence collective, mais c'est un scientifique. Hein, et en charge du comité national d'éthique.
Étienne, c'est France. Qui le troisième ?
Jean-Claude Ameisen.
Ameisen.
Qui est un personnage, un conteur, qui va chercher sur les épaules de Darwin. Sur les épaules de Darwin, son bouquin, qui va chercher dans l'histoire des sciences, dans les connaissances, dans l'archéologie, dans la littérature, on est dans une pluridisciplinarité, il va toucher nos émotions tous les samedis matin.
Ouais.
Émotions en allant chercher Pascal Quignard. Et à utiliser, hein, il est formidable parce que Pascal Quignard, ses bouquins sur l'amour. Donc il va chercher des textes comme ça, des poèmes, et puis en même temps il les associe, il les met en lien avec des connaissances scientifiques, avec des découvertes les plus avancées de l'espace, du micro, etc. Je vous recommande, c'est vraiment une personnalité remarquable. Donc voilà quelqu'un qui... Et c'est quoi ? Lui, il est dans la recherche de processus. Je crois que sa recherche, elle est qu'est-ce que nous pouvons tirer de la nature ?
Tu n'y as rien de méchant.
Oui, qu'est-ce que nous pouvons tirer de la nature et qui peut nous aider à mieux vivre
oui.
ensemble. Hein, donc on est, c'est l'intelligence collective. Et ça, c'est sa, ça, c'est, sa, c'est sa quête, et il nous emmène dans cette quête depuis 3 ans, hein, tous les samedis matins, et ses 2 bouquins sur les...
J'ai une amie à 40 ans qui a passé une thèse, qui a soutenu une thèse d'architecture à Paris-Nice. J'aurais toujours en tête le mot du président qui dit « Je suis ravi que, enfin, une thèse d'architecture soit soutenue dans une université scientifique. Pourquoi ? Parce que les scientifiques de ce domaine, je ne sais plus ce qu'ils font, ont toujours considéré que l'architecture un peu ce qu'on dit des ateliers quand on fait de la physique. Quoi.
C'est de l'art, c'est tout. Et puis,
ouais. Ben, pourquoi ? Parce que, effectivement, les architectes, ils ont une démarche comment dire, qui peut passer pour seulement intuitive et pas forcément rigoureuse. Et, parce que chaque fois qu'on énonce des concepts d'architecture, c'est un peu, tu vois...
Quand tu dois calculer tes structures, tu as intérêt à avoir une démarche scientifique à la base. Hein.
Ouais, mais c'était pas là-dessus, c'était sur des concepts d'urbanisation ou des choses comme ça. Et je me souviens très bien, les scientifiques étaient vachement mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'ils considéraient que les objets étaient flous, il n'y a pas beaucoup de... Mais c'est un grand sujet. Il faut savoir ici que René Thom, le mathématicien qui a inventé la théorie des catastrophes, s'est fait jeter ici. Parce que c'était pas quantifiable et tout ça. Vous le savez peut-être pas, mais vous savez, science dure, science molle. Hein? Bon, mais il y a un autre mot que vous connaissez peut-être pas, c'est les sciences assises et les sciences debout. Parce que les scientifiques durs sont au tableau, ils écrivent au tableau. Les sciences molles, ils sont là, comme nous. Ouais, comme
nous, là. D'ailleurs, dans les deux gestes, tu vois qu'il y a une posture qui est individuelle et l'autre qui est dans le collectif.
Ouais. C'est...
Ouais. Moi, je crois que ça fait beaucoup la différence. Hein. C'est-à-dire, cette croyance dans le savoir et on peut le capter dans la tête d'une personne, ou le savoir n'existe pas dans la tête d'une personne, ouais. Il est dans la tête de plusieurs.
Voilà.
Et voilà.
Je vais vous laisser, mais juste pour vous dire, moi, le caractère innovant, tu vois, ça serait si on arrive à réconcilier de manière confortable les deux univers, je serais sacrément content. Hein. Parce que je pense qu'on ne peut plus continuer à être dans les chiens de faïence. Quoi. Oui. Je me demande quand je suis encore vivant dans cette école.
Qu'est-ce que tu dis?
Non, mais je crois qu'ils aiment bien la personne que je suis, mais ce que j'incarne, ils l'exècrent.
C'est une chance, c'est quand même qu'il fait partie du cerveau. Si tu sors du cerveau, ouais. Des centrales.
Ouais.
Oui,
oui, puis si, il y a quand même une chose, c'est que.
Il s'est perdu, mais un jour il ne l'a pas été.
Hein?
Ils peuvent se dire que tu t'es perdu, mais qu'un jour tu ne l'as pas été.
Non, et puis ce que moi, c'est la voix des élèves aussi, si tu veux. C'est ce que j'ai fait quand tu as les meilleurs élèves de l'école qui disent que là où ils ont le plus appris, c'est avec moi. Il y en a eu plusieurs qui ont dit ça. Non, non, je n'ai rien dit.
Si on a
non,
plus pris l'honneur, là, je crois que c'est
bon. Non, mais pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'à l'époque où je suis arrivé, c'était tellement le désert que tout d'un coup, les gars, ils avaient une vraie relation avec un mec. Ils avaient l'impression qu'on les chahutait là où ils se sentaient complètement pas équipés, tu vois.
Et puis alors, après, c'est ce que tu leur avais dit.
Ouais, et puis alors, quand le meilleur scientifique me dit que j'aimais bien, parce que moi j'ai un DEA thermique et je suis allé le voir, et on a discuté, tous les deux, et il me dit, je comprends pas ce que tu fais. Mais je lui dis, t'as qu'à venir, puis tu verras. Et il est venu. Il a vu. Il est venu à tout. Et publiquement, il a dit, ce que fait Serge, je ne sais pas le faire, c'est utile, mais ce que je fais, il ne sait pas le faire, c'est utile. Donc voilà, on a signé une alliance. Le problème, c'est que lui, c'est un vrai dans la mesure où il est venu. Les autres, ils se contentent d'avoir des a priori. Quoi.
Ils
ne
sont pas scientifiques.
Voilà. C'est, tu connais le truc des... comme on dit, les cordonniers.
Oui.
Moi, j'ai quand même juste une question. Si je tire l'interprétation ou la conséquence de ce que tu dis, peut-être je me trompe, c'est pour ça que je voulais vérifier, j'ai l'impression que pour avoir cette démarche du coup plus rigoureuse, qu'on puisse tirer au bazooka, comme machin, etc., qu'il va falloir un petit peu simplifier et créer certains trucs pour que justement, parce que ça prend du temps quand même, ce que tu dis.
C'est très possible.
Donc, qu'il faille un peu écrémer chaque journée pour se dire, bah, ça peut-être que.
C'est très possible.
Ouais. Un sentiment.
Ouais. Ok. Et je le vois avec les élèves qui disent qu'ils perdent du temps, que ça pourrait aller beaucoup plus vite, c'est qu'on n'arrive pas à aller, on n'arrive pas à fixer leur esprit suffisamment sur les choses qu'il faudrait. Chaque fois qu'un élève dit qu'il perd du temps, c'est que. Il n'arrive pas à accrocher la question qui va le faire travailler, tu vois. Alors que s'il est dans une PC de physique, le mec, il est pendu à ça, il dit « Putain, ça va venir, merde !» Donc il est en permanence en tension, tu vois.
Mais c'est vrai que c'est peut-être pas si dur que ça, finalement, déjà, amener un peu d'éléments bibliographiques, on peut l'amener. Voir, quand on présente des méthodes, des outils, je suis sûr que ça a été testé, même des études, on peut dire « Voilà, il y a 30% de mecs, ça fait ci, ça, ça. »
Mais c'est un effort. Mais le problème, peut-être, c'est un investissement. Tu vois, tu imagines déjà là où elle est arrivée. Mais effectivement, il y a probablement un investissement supplémentaire à faire.
Bah, à un moment, tu as quand même dit, pour le moment, j'ai sauvé les meubles. Mais tu ne sais même pas si, à l'avenir, s'ils reviennent tous à la charge, est-ce qu'on peut les sauver les meubles. Ça, c'est peut-être l'investissement indispensable à ce moment-là.
Oui, 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 c'est sûr. Bon, allez. Bon,
merci, ouais.
Grand merci.
Ouais. Non, mais merci, et surtout, et à vous, hein, parce que c'est quand même un résultat de bien, ça.
Et ça va nous permettre de rebondir aussi pour la suite.